Écho d'écolo, l'émission étudiante qui met la planète au micro.
Bonjour à tous et à toutes, bienvenue sur Écho d'écolo, l'émission étudiante qui met la planète au micro. Nous sommes Florian,
Capucine,
Morgane
et Valentin.
Nous sommes étudiants en master en gestion de l'environnement et aujourd'hui, cette émission sera consacrée aux récifs artificiels, ces structures immergées créées par l'homme pour des raisons aussi nombreuses que complexes. Et puisqu'un exemple vaut parfois mieux que mille explications, nous commencerons cette chronique en vous emmenant non loin d'ici, dans le golfe de Saint-Jouan, où un récif artificiel a nécessité une opération de sauvetage des fonds marins de grande envergure il y a quelques années de ça. Pour commencer, imaginez le cadre idyllique du golfe de Saint-Jouan, entre Cannes et Antibes, un paysage si caractéristique du sud-est de la France et que le monde entier nous envie. Fermez les yeux et vous entendrez presque le chant de la cigale de Marcel Pagnol, le tout accompagné par la douceur du climat méditerranéen. Présenté comme ça, on pourrait facilement croire que le golfe de Saint-Jouan fait partie de ces rares endroits qui ont à peu près réussi à échapper aux problèmes de pollution plastique.
Eh bien, détrompez-vous, puisqu'il n'en est rien. Jusqu'à récemment, cet écrin de nature était particulièrement concerné par ce problème. Remontons le temps, en 2015. Vous rouvrez les yeux et tombez avec effroi face à quelques 25 000 pneumatiques gisant au fond de la mer par 30 mètres de profondeur. Pour vous donner un ordre d'idée, ces 25 000 pneus occupaient 8 000 mètres cubes. C'est plus que le volume de 3 piscines olympiques, éparpillées sur près de 4 hectares, le tout dans un site classé Natura 2000.
La question qui se pose alors serait sans doute, comment est-il possible que les courants marins aient concentré tous ces pneus dans une zone si réduite ? Eh bien la réponse est très simple en fait, les courants marins n'y étaient pour rien puisque ces pneus ont été immergés volontairement dans les années 70 jusqu'à 80. Et pour pousser l'ironie à son comble, l'idée n'était absolument pas de s'en débarrasser et de faire une décharge sous-marine, mais au contraire, de préserver la faune locale en créant un récif artificiel et lui offrir un refuge. Cette initiative a été prise par des pêcheurs locaux, soutenue par les pouvoirs publics, et même validée par des membres de la communauté scientifique de l'époque qui pensaient réellement bien faire et que ce récif artificiel fait de pneumatiques permettrait d'augmenter à long terme les populations de poissons dans cette zone en leur créant un habitat de choix.
Si aujourd'hui l'idée semble incompréhensible, il ne faut pas perdre de vue que dans les années 70, les consciences écologiques n'étaient pas les mêmes et que nous n'avions pas le même recul sur les questions environnementales qu'aujourd'hui. Sans surprise, ce récif a été un échec monumental sur le plan écologique. Les pneus se sont éparpillés avec le temps et menacés de s'étendre vers les précieux herbiers de Posidonie et les coraux situés à proximité. Au final, le récif n'a jamais été adopté par la vue marine comme espéré. Et même pire que ça, les pneus faits d'hydrocarbures, relâchés dans l'environnement des microparticules de plastique, ainsi que de nombreuses substances hautement toxiques pour la biodiversité. Si la situation que je vous ai décrite paraissait bien mal engagée, tout n'était pas perdu pour autant, puisque quelques courageux se sont retroussés les manches pour réparer cette erreur du passé. En 2015, une première opération menée par l'Agence française de la biodiversité a permis de retirer près de 2500 pneus et en 2018, on a commencé le repêchage des 22 500 pneus restants. L'opération a nécessité la mobilisation de 8 plongeurs professionnels qui ont inlassablement enfilé des pneus un par un sur des sortes de colliers pour que ces derniers soient ensuite récupérés par un bateau spécialement équipé pour l'opération et stationnés à la surface en soutien des plongeurs. Une fois ramenés à terre, les pneus ont suivi la filière classique des pneus usagés et ont été broyés en granulats pour fabriquer de nouveaux objets, pour être utilisés comme combustible ou pour de la valorisation énergétique. Bon, même si aujourd'hui on arrive à retomber sur nos pattes avec la récupération des pneus et leur recyclage, on peut quand même dire que cette idée pour créer un récif artificiel était assez catastrophique. Pourtant, tous les récifs artificiels ne sont pas des échecs, bien au contraire, et certains remplissent même très bien leur rôle. Mais Valentin, est-ce que tu peux nous expliquer plus en détail ce qu'est un récif artificiel ?
Alors, déjà, on peut définir un récif artificiel comme une structure immergée volontairement par l'homme et qui a vocation à être petit à petit colonisé par des algues et des micro-organismes. Ces récifs, tout comme des récifs naturels, constituent au bout de quelques années une véritable petite ville sous-marine, abritant toutes sortes d'animaux, comme des mollusques, des crabes, des coraux ou des poissons.
Ok, donc ces récifs créent en quelque sorte un îlot de vie, une oasis de biodiversité au milieu de l'océan, c'est bien ça ?
Exactement. Et en favorisant la vie, ces solutions peuvent constituer une réponse positive aux nombreuses pressions qui pèsent sur les écosystèmes marins. On peut par exemple citer la surpêche et la dégradation des écosystèmes et des habitats par le chalutage ou les activités de loisirs. Elles peuvent par la même occasion soutenir la pêche professionnelle dans des zones initialement faibles en poissons.
On peut d'ailleurs discerner trois types de récifs artificiels en fonction de leur vocation. Les récifs de production, destinés à augmenter la ressource de pêche. Les récifs de protection, qui protègent la faune marine des dégâts liés aux chalutiers tout en leur conférant des habitats. Et les récifs ludiques, conçus pour des aspects esthétiques et destinés aux plongeurs. Dans les récifs artificiels fonctionnels, on constate presque toujours une augmentation locale du nombre d'espèces présentes, du nombre de poissons, et cela peut même favoriser la reproduction de certaines espèces. Ces structures, qui imitent les caractéristiques des zones rocheuses naturelles, ne sont pas nouvelles, bien au contraire. Il faut savoir que les précurseurs de cette idée de récif artificiel, ce sont les pêcheurs nippons. Au Moyen-Âge, ces pêcheurs immergeaient déjà des structures en bambou remplies de pierres pour créer des habitats favorables aux poissons et améliorer leur reproduction.
Mais voilà, au fil du temps et en voulant sauver les poissons, l'homme a immergé un peu tout et n'importe quoi. Avant les années 80, la plupart des projets de récifs artificiels dans le monde ont surtout été faits avec des matériaux de récupération ou avec des déchets. On vous a précédemment exposé l'exemple des pneus immergés dans la Méditerranée, mais ce n'est malheureusement pas un cas isolé. Valentin, est-ce que tu peux nous présenter le projet qui a inspiré les Français à immerger 25 000 pneus sous la mer en pensant que c'était une excellente idée ?
Effectivement, il y a eu un projet assez similaire qui s'est déroulé au début des années 1970 en Floride, aux États-Unis. L'objectif, c'est le même que le projet français, mais l'envergure est bien différente. On ne parle pas de quelques 25 000 pneus, mais plutôt entre 1 à 2 millions de pneus immergés au large de la Floride, dans la baie d'Osborne, pour créer un habitat marin, ce qui équivaudrait environ au volume de 130 à 260 piscines olympiques. Ce rêve a vite tourné au cauchemar. Les tempêtes et la houle ont dispersé les pneus, dévastant les récifs coralliens qu'ils devaient enrichir. Depuis 2007, des opérations d'envergure tentent de réparer ce désastre. À ce jour, plus de 640 000 pneus ont été retirés, mais à un coût écologique et financier colossal. Et comme si ça ne suffisait pas, nos voisins américains ont aussi décidé d'immerger 3000 rames de métro new-yorkais au large de New York. Cela dit, pour ce projet, les résultats sont moins catastrophiques que pour les pneumatiques. À la différence des pneus qui n'ont même pas été colonisés par quelques algues et mollusques, quelques années après, les rames de métro sont devenues de vrais refuges pour de nombreuses espèces, dont des poissons, des moules ou des algues, donnant à voir des photographies lunaires de poissons qui prennent le métro.
Mais cette pratique fait débat, et des ONG de protection de l'environnement la contestent, notamment parce que cela pourrait inciter les habitants du littoral à jeter un peu tout et n'importe quoi dans la mer. En plus, on a découvert que certains wagons seraient encore contaminés par de l'amiante. Les pratiques d'immersion de mobilier urbain ou de rames désaffectées est d'ailleurs strictement interdite en Europe. Après ce panorama de mauvais exemples emblématiques, laissez-nous maintenant vous parler des récifs artificiels qui, eux, fonctionnent très bien. Mais avant cela, Morgane, peux-tu nous indiquer les caractéristiques que doit avoir un récif artificiel pour favoriser l'installation de la faune marine ?
Bien sûr. Comme nous l'avons dit précédemment, ces structures, conçues pour imiter les caractéristiques des zones rocheuses naturelles, joue un rôle essentiel dans la restauration écologique et la protection des écosystèmes marins. La réussite biologique d'un récif artificiel repose avant tout sur l'architecture de la structure. le choix du matériau, de la forme, de la hauteur ou du design sont des éléments déterminants pour favoriser l'installation et le développement des espèces marines. La structure doit également offrir des niches et des espaces variés qui permettent l'implantation et la croissance de la faune et de la flore marine.
La localisation du récif est aussi primordiale à prendre en compte. Celui-ci doit être adapté aux besoins, aux habitats et aux modes de vie des espèces qui vivent dans la zone où il est implanté. En quelque sorte, il faut cibler à l'avance les préférences des espèces qui vont y habiter, pour créer un véritable petit paradis et les meilleures conditions de vie possibles. Les matériaux doivent aussi être choisis en fonction de leur résistance mécanique aux vagues et à la houle et de leur capacité à résister aux conditions environnementales sous-marines. Le mieux est d'utiliser de la roche naturelle, mais le béton et l'acier peuvent aussi être sélectionnés pour leur caractère modulable.
Toutefois, attention, si l'on considère le matériau en prenant compte de sa production, le bilan carbone du béton est assez mauvais. 0,7 tonnes de CO2 par tonne de ciment produit. De plus, le pH élevé du béton peut avoir des conséquences sur les espèces qui s'installent dans ces structures, ou en favoriser plutôt certaines que d'autres. Cependant, les structures en béton restent aujourd'hui privilégiées pour créer des récifs artificiels, en raison de leur faible coût et de leur simplicité de production. Malgré leurs limites, ces structures en béton portent tout de même leurs fruits. On peut par exemple citer l'exemple du récif artificiel de la calanque de Corsiou, près de Marseille. Florian, pourrais-tu nous parler plus précisément de cet exemple ?
Oui, en fait, pendant plus d'un siècle, la calanque de Corsiou a été le déversoir de toutes les eaux usées de Marseille. Les espèces marines ne trouvaient plus le substrat adéquat pour se cacher et se nourrir. La solution, 36 récifs artificiels en béton installés pour régénérer l'écosystème marin dégradé par ces années de pollution industrielle. Ces structures permettent à des espèces comme le mérou, les algues calcaires et des invertébrés de recoloniser cette zone et les suivis effectués ont montré une augmentation progressive de la biodiversité marine locale. Il est également possible de créer des récifs avec des matériaux qui, eux, sont complètement naturels, n'est-ce pas Morgane ?
Eh oui, Florian. En effet, aujourd'hui, grâce à la bio-ingénierie notamment, on cherche à créer des récifs artificiels à l'aide de matériaux naturels. En Louisiane, par exemple, des projets de restauration de récifs utilisant des coquilles d'huîtres recyclées voient le jour. Cela fait des siècles que les communautés de pêcheurs remettent les coquilles à l'eau, mais les huîtres consommées dans les restaurants, elles, finissent souvent dans des décharges. La coalition de restauration des côtes de Louisiane offre depuis quelques années aux restaurateurs et aux résidents de la région la possibilité de participer à la longue tradition de remise à l'eau de la coquille pour renforcer les écosystèmes côtiers et favoriser la biodiversité marine. En s'accumulant en tas au fond de l'eau, les coquilles d'huîtres vont créer du relief dans les fonds marins, offrant alors des habitats, des fissures et des cachettes aux espèces sous-marines.
Finalement, revenir aux matériaux naturels nous incite à revenir aux traditions. Vous vous souvenez des structures en bambou immergées par les Nippons au Moyen-Âge, que nous avons évoquées précédemment ? Eh bien, aux Philippines, deux villages côtiers ont bénéficié d'un projet de création de récifs artificiels, en bambou, un matériau qui est naturellement abondant dans la région. 72 modules en bambou ont ainsi été fabriqués puis immergés. Ces structures représentent donc une vraie alternative écologique aux récifs traditionnels en béton, permettant de favoriser le retour de la vie marine et favoriser la ressource halieutique dans la région.
Chers auditeurs, c'est déjà la fin de notre chronique. Merci de nous avoir écoutés. C'était Écho d'Écolo, l'émission qui met la planète au micro. On espère que cet épisode vous a plu. Vous pouvez bien entendu le retrouver en podcast sur le site de Radio Alliance Plus. On vous dit à très vite pour un nouvel épisode et on va vous laisser au même endroit où nous nous sommes rencontrés en début d'émission. Je parle bien entendu du Sud, mais ça, Nino Ferrer vous en parlera bien mieux que moi.
C'est un endroit qui ressemble à la Louisiane, à l'Italie. Il y a du linge étendu sur la terrasse et c'est joli. Thank you.
malgré le sud. Le temps dure longtemps et la vie sûrement plus d'un million d'années. Y'a plein d'enfants qui se roulent sur la pelouse. Y'a plein de chiens. Y'a même un chat, une tortue, des poissons rouges. Il ne manque rien. On dirait le sud. Le temps dure longtemps et la vie surprend plus d'un million d'années. Et toujours en été.
Faire. On dit c'est le destin.